Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 711 du podcast Touch en Actuel. On m'était très heureux de vous retrouver pour débriefer pour la dernière fois certaines équipes pour cette saison NFL 2023 et pour d'autres évidemment avant les playoffs. Raphaël Masmejean est encore avec moi, bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
Et ça va toujours depuis hier?
Eh ben oui, écoute, très bien.
Tu continues à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de Kaamelott, la petite histoire de France.
je me renseigne, je découvre progressivement qui est Alexandre Astier.
Tu te mets dans le bain. Ah, j'aime bien quand tu dis j'essaie de découvrir qui est Alexandre Astier parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent bouillir derrière leur, j'allais dire derrière leur poste, je suis vieux. Mais en tout cas, oui, on sera évidemment sur W9, donc on se met dans le bain petit à petit, on est hyper corporate. Attends, au moment où on enregistre, il y a un dîner presque parfait, visiblement, okay. À l'antenne. Je regarde, ouais, c'est ça, c'est le moment d'un dîner presque parfait. Ensuite, tu auras marié à tout prix. Mmh. Un truc qui s'appelle Sissi. Ah, apparemment, c'est de l'impératrice.
Ah ouais, avec Romy Schneider.
Non, non, c'est une série.
Ah, c'est pas la version originale.
C'est une série germano-autrichienne. Ouais. Et apparemment, ce soir, l'empereur François Joseph se rend sur le front pour se battre contre la Prusse. Donc, ça arrive.
Ah, voilà. Ça, c'est ce qu'on aime.
Voilà, grosse émission ce matin, si vous nous écoutez en téléchargeant mercredi matin, je suis perdu. Dans
ah oui, donc les gens n'auront même pas eu l'occasion de voir Sissi, ils l'apprennent trop tard du coup.
Ah oui, bah ouais, du coup c'est... on enregistre avant Sissi, ça c'est dommage. Bon, en tout cas, il y a peut-être le replay sur Sisplay. On a une grosse émission parce qu'on va commencer avec de l'actu, il y a des coachs virés et pas plus tard qu'il y a 5 minutes juste avant qu'on ait un enregistre, donc ça, on va commencer par ça. Et puis après, débrief des matchs comme d'habitude et petit raison funèbre, on va dire, pour certaines équipes avant de les laisser partir en vacances. On commence sans plus tarder avec les actus coach.
Live from Studio 3C and Rockefeller Center, this is Today in New York.
Et de l'actu vraiment, vraiment chaude, Raphaël, parce que ça s'est passé vraiment littéralement. Heureusement qu'on était en retard pour l'enregistrement. Mm-hmm. J'étais à la bourre et tout. Bah, tu vois, c'est grâce à moi. Juste avant l'émission, Mike Vrabel a été viré.
T'étais avec lui au téléphone, à vous.
Oui, c'est ça, on négociait. Non, mais alors, je vais pas te cacher que je suis très content parce que le Black Monday avait été très très calme. Il y avait deux coachs virés avant qu'on enregistre hier. On a dit non, on va attendre demain. Il va sûrement se passer des trucs. Il s'est passé rien du tout. Et là, on a quand même un petit Mike Vrabel et ça pourrait démarrer pas mal de choses. On va y venir parce que mine de rien, ça pourrait être intéressant. Donc, Mike Vrabel s'en va. On nous présente ça sur NFL Media comme une décision des deux camps, ce qui n'est pas tout à fait. Il est viré. Mike Vrabel, il était quand même dans le Tennessee depuis 2018. Je ne me rappelais plus que ça faisait aussi longtemps. Je viens de vérifier. 2018, il avait pris le poste de head coach. Il avait quand même des saisons honorables 9-7, 9-7, 11-5, 12-5. Et ces deux dernières années, en effet, ça s'est tassé avec 7-10 et 6-11. Donc, il est sur son pire bilan. J'ai envie de dire que c'est quand même plutôt logique les bilans, Raphaël. Il était arrivé au bout d'un groupe aussi, quoi. Ils arrivaient au bout d'un cycle, rien que sur l'effectif.
Oui, oui, effectivement, les bilans ont commencé à baisser parce que les joueurs, les pierres angulaires, on va dire, de son équipe commençaient à décliner. On pense à Ryan Tannehill, à Derrick Henry, qui avaient permis à cette équipe d'atteindre une finale AFC notamment, sur les saisons où ils ont des excellents bilans, 11 et 12 victoires, comme tu l'as rappelé. En défense aussi, on a eu quelques coups de vieux, donc c'est pas étonnant, effectivement, après 6 ans. Il a été aussi loin qu'il pouvait avec l'équipe qu'il avait, l'effectif qu'il avait. S'il a d'autres opportunités ailleurs, que l'équipe se dit, ok, on a Will Levis, qui est un quarterback là, qui va être en deuxième année, on veut peut-être aussi un coach plus offensif pour l'encadrer. Bon, la décision des deux équipes de repartir un peu de zéro, des deux camps de repartir un peu à zéro, me semble pas non plus saugrenue.
Oui, ça peut être logique en effet. Il avait été coach de l'année en février 2022, donc pour la saison 2021, mine de rien. Donc c'est allé vite, hein. C'était il y a 2 ans qu'il était coach de l'année. Et là, il se retrouve dehors. Est-ce que, Raphaël, c'est le premier domino d'un plan diabolique ? Parce que, on vous le dit, une des rumeurs, c'était ces dernières heures, même avant le dernier match, si je dis pas de bêtises, c'était Mike Vrabel aurait un œil sur le poste des Patriots si jamais Bill Belichick venait à être licencié. Est-ce que ça voudrait dire que Mike Vrabel, parce qu'il n'a pas été viré sec au Black Monday, donc ça veut dire que les dirigeants n'étaient pas particulièrement mécontents, mais est-ce que peut-être... Bah, dans les dernières heures, il y a eu des réunions entre Bill Belichick, Robert Kraft, etc. Il aurait eu un petit message, un petit truc, on lui aurait dit surveille parce que ça va peut-être se libérer.
Bah, c'est pas improbable, effectivement, c'est pas impossible en tout cas. Si la rumeur sur son intérêt pour New England est vraie, ce qui paraît pas impossible, hein, c'est quand même une ex-légende de la franchise, il a gagné avec, enfin, ça paraît pas fou de l'imaginer vouloir coacher cette équipe-là. Et on voit que Bill Belichick semblait peut-être un peu acculé et sur le point de départ. Donc, en tout cas, c'est un scénario qui fait sens. C'est un scénario qui peut faire sens.
Ça fait sens si Robert Kraft confirme que visiblement il est allergique à l'embauche de gens qu'il connaît pas forcément. Quoi,
c'est ça. Oui, effectivement, je précise, ça fait sens en termes de scénario de lui. Pas forcément, je dis pas que ça fait sens en disant que c'est une bonne idée, que je pense que c'est une bonne idée pour remplacer Bill Belichick. C'est pas tant ça que je veux dire, mais.
Oui, donc ça fait sens selon la logique Patriots, mais c'est pas forcément une bonne idée.
Ouais, je sais pas si c'était pas l'occasion, si les Patriots, l'occasion de partir à zéro après Bill Belichick, c'est pas de totalement repartir à zéro avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans cette franchise.
Bah, et puis regarde, comment il s'appelle, CJ Stroud de McCorians, c'est l'occasion de faire ça parce qu'ils sont top 2 ou 3 de la draft. Ils sont deuxième ou troisième, j'ai un trou sur le choix, mais ils sont dans le top 3, hein, c'est ça, ils sont deuxième. Donc ça veut dire qu'ils pourraient prendre un quarterback, un nouveau coach, enfin c'est le moment de... Tout le monde réussira pas à faire ce qu'ont fait les Texans cette année, je veux dire, mais c'est un peu le schéma, quoi. Il faut réussir à faire une intersaison un peu comme ça, et ce serait idéal, mais je suis comme toi, dans ce cas-là, tu prends un coach offensif qui choisit son quarterback, etc., etc. Mike Vrabel, c'est pas particulièrement un coach offensif qui va te...
Non, non, ça c'est sûr.
Parce que les problèmes, ils étaient surtout là, en plus, dans cette franchise. Donc,
et c'est le principal chantier du côté New England, hein, à l'attaque. Au passage.
Oui, bah enfin, c'est ça en plus. Bon, en tout cas, on fait des hypothèses, hein, évidemment. Bill Belichick, au moment où on enregistre, n'est pas viré. Qui est viré, c'est Arthur Smith, du côté des Falcons. C'était le tout premier licenciement du Black Monday. Il a été fait avant même la fin du Sunday Night Football, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, très très rapidement. Il s'en va avec 7 victoires et 10 défaites cette saison, 7 victoires et 10 défaites la saison d'avant, 7 victoires et 10 défaites la saison d'encore avant. Donc il était vraiment d'une régularité à toute épreuve.
Décision assez logique, quand tu donnes ce bilan-là, il n'y a aucun progrès en 3 ans, il n'y a pas de progrès comptable, et j'ai même envie de dire qu'il n'y a pas de progrès en termes de contenu, parce que on sait que des fois les matchs, tu peux avoir un peu de chance, et d'une saison à l'autre, il y a des bilans qui sont les mêmes, mais le contenu peut être un peu meilleur, il y a une dynamique positive qui se crée, enfin voilà, tu peux avoir des changements. Là, depuis 3 ans, on a quand même l'impression de voir globalement la même chose du côté d'Atlanta. Et notamment, le problème, c'est l'attaque. On lui a donné beaucoup, beaucoup de pièces offensives pour avoir une belle attaque. Et ça n'a pas fonctionné. Ça a stagné cette année, voire ça a régressé. Donc oui, il en fait les frais. Et je pense que beaucoup de fans de fantasy football se rêve peut-être à enfin un bel avenir pour Kyle Pitts, Drake London, Bijan Robinson, etc.
C'est vrai que ça a été une année compliquée pour tout cela. J'arrive pas à savoir honnêtement ce que j'en pense. En fait, il n'y aurait pas eu en effet toutes ces questions d'usage de Bijan Robinson, Kyle Pitts et compagnie. J'aurais trouvé ça dur, mais c'est vrai que leur usage à eux a été tellement compliqué. Parce que l'année dernière, ils surperformaient un peu, mais il y avait un esprit. Et cette année, on se demande pourquoi il a défait ce qu'il avait fait
ça,
en termes d'esprit offensif.
Aussi, ouais. Effectivement, l'an dernier, il y avait beaucoup de jeux au sol avec un Tyler Allgeier ça avait bien fonctionné. Là, avec la draft de Robinson, on s'attendait à ce qu'ils insistent encore plus au sol, quitte à être presque caricaturaux, mais au moins assumer cette domination totale au sol. Et on a vu des matchs où on faisait lancer beaucoup plus Reader ou... c'était qui déjà qui le remplaçait?
Taylor Heinicke,
voilà. Plus que les coureurs, effectivement, il a défait cet esprit offensif, donc l'attaque marchait plus, la défense avait un peu progressé, mais bon, pas suffisamment, donc bon.
Et d'autant plus que les conditions étaient réunies pour qu'il continue à jouer comme ça. C'est pas comme s'il avait hérité d'un super quarterback pendant l'intersaison.
C'est vrai.
Donc c'est ça que je comprends pas trop. Et pour moi, c'est là où ça devient logique. Parce que s'il avait continué dans le même esprit, avec une vraie philosophie, et qu'on disait, bon, bah voilà, il avait pas le quarterback, il a continué à mettre en place quelque chose. Cette intersaison, ils essaieront de lui trouver le quarterback et ça fera le job. Il y avait une continuité à avoir, mais là, je vois pas, en effet, vu qu'il en a pas eu, on est dans la même configuration un petit peu d'ailleurs que ce que je disais pour les Patriots. Il va falloir trouver un quarterback maintenant en plus du coach. Donc, sachant qu'ils ont quand même beaucoup plus d'armes à dispo pour le quarterback.
Parce oui. que, ouais.
Là, le mec qui va arriver, pour le
oui,
coup, si le coach
y a
se rappelle
de
que,
quoi faire. Ouais, ouais.
Voilà, si Drake London et Bijan Robinson et Kelpit ne sont pas trop rouillés après cette saison à prendre un peu la poussière, en tout cas, il y aura de quoi faire du côté d'Atlanta. Et puis enfin, du côté de Washington, Ron Rivera est viré. Alors, c'est un peu, c'est pas une énorme surprise, quoi. Ouais. Je cherchais un mot en français, les Ricains aiment bien dire anticlimatique, tu sais, c'est genre, on n'est pas hyper surpris. 4 victoires, 13 défaites cette saison, c'est son pire bilan depuis qu'il est arrivé en 2020 à Washington. En plus, il y a un nouveau propriétaire qui est arrivé en juillet 2022, exactement comme quand il a été viré des Panthers, il y avait un propriétaire qui est arrivé la saison d'avant, il a regardé faire, il a dit, bon, bah... C'est Ron Rivera, quoi, hein, 26 victoires, 40 défaites et un match nul, le bilan.
Oui, non, mais t'as tout dit, on connaît les qualités et les défauts de Ron Rivera, ça a été à peu près la même chose à Washington, en plus il est tombé sur un groupe peut-être encore moins bon que ce qu'il avait aux Panthers globalement. Ça n'a jamais marché en défense, l'attaque n'a pas décollé en faisant venir Eric Bieniemy, c'était son choix. Et surtout, je crois que de toute façon, la clé principale, tu l'as dit, c'est le changement de propriétaire. Le propriétaire, en arrivant en juillet, s'est dit « Ok, je me lance peut-être pas dans un recrutement de coach. On reste avec Rivera, on a un nouveau coordinateur offensif, j'attends de voir ce que ça donne. » Bon, bah la saison est passée, merci, au revoir. Enfin,
je pense que vraiment le bilan global en carrière, donc Panthers plus Washington de Ron Rivera, résume parfaitement Ron Rivera. 102 victoires, 102 défaites, 2 matchs nuls.
Oui, non mais...
tu peux pas faire
non,
plus Ron Rivera que ça.
Effectivement, c'est ça.
Bon, ceci étant dit, à Washington, 4 saisons, aucun bilan positif. Hein, donc de toute façon,
c'était plus compliqué à Washington, voilà. Ouais, c'est clair.
On parle du nouveau propriétaire, mais de toute façon, il a clairement des arguments pour passer à autre chose. Ça. C'est pareil, ils vont sûrement prendre un nouveau quarterback à un moment. Ils sont très hauts à la draft. Voilà, je pense que ça va de soi. Est-ce que tu donnerais une chance à Eric Bieniemy d'ailleurs? Tu l'as cité.
Je sais pas. C'est toujours très dur sur les coordinateurs sans savoir quel est le profit du coach qui va être embauché. Enfin, je sais pas.
Non, mais je veux dire, est-ce que tu donnerais le coach
le coach
principal à Bieniemy?
Je suis pas certain. Il m'a pas particulièrement emballé en tant que coordinateur offensif là.
Ouais, il y a eu des phases.
Il y a eu des phases, ouais. Je sais pas. Franchement, alors, je le rencontre, je fais une interview, mais je sais pas quoi.
Alors, des trois là dont on a parlé, Titans, Falcons et Commanders. Toi, t'es libre, t'es coach, tu es talentueux,
ouais.
Tu as une chevelure parfaite comme tu es actuellement. Lequel de ces postes tu préfères?
Alors, Titans, Commanders et Atlanta, je pense que j'irai vers Atlanta, parce qu'il y a des vrais skill players, et je me dis, ok, si j'arrive à trouver le bon quarterback, ça peut le faire. Peut-être Atlanta, Mais si tu crois en Will Levis, un coach qui croirait en Will Levis, je serais pas étonné du coup qu'il choisisse Tennessee, parce que finalement c'est la seule peut-être des trois qui a son quarterback.
Oui, c'est le.
C'est un peu le truc qui me fait hésiter, tu vois.
Mais moi j'irais sur Atlanta au sens où en effet l'effectif est plus complet. Il y a plein de super skills players. Ouais. La signature de Jesse Bates a quand même bien marché pendant l'intersaison en défense. Donc il y a des arguments, mais après oui, bon, et puis il y a ces horribles maillots, je sais pas. J'aimerais bien avoir un peu de swag quand même. Moi j'ai pas de cheveux, donc il faut quand même que j'ai un truc qui a un peu de gueule. Bon, ceci étant dit, les trois équipes là en termes de swag, c'est pas mes trucs préférés.
Donc, c'est pas les franchises les plus hype de la ligue non plus, hein, d'ailleurs.
Non, non. Bon, on rappelle que il y a eu peu de coachs virés au Black Monday. On rappelle quand même, c'est parce que Brandon Staley avait été débarqué par les Chargers, Frank Reich viré par les Panthers, Josh McDaniels par les Raiders. Tout ça, ça s'était arrivé pendant la saison. Donc si on fait le compte, si on fait Staley, Reich, McDaniels, Smith, Rivera et Vrabel, on en est déjà à 6 quand même, donc qui sont partis. Et on est dans l'attente de Bill Belichick. Au moment où on se parle, Bill Belichick est toujours en poste. Donc, on refile le bébé à la prochaine émission. Ils feront une spéciale en début d'émission si jamais Bill Belichick est viré. On va passer au match de la semaine.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et on enchaîne avec les matchs de la semaine, évidemment. Programme un peu plus court sur certains matchs, on va pas vous cacher, parce qu'on voulait parler des coachs, notamment, et puis qu'encore une fois, certains matchs sont quand même un peu moins passionnants cette semaine, on ne va pas se mentir. On va commencer avec Panthers 0, Buccaneers 9. Les Buccaneers sont champions NFC Sud. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais alors qu'est-ce que ça a été dur? 3 field goals, aucun touchdown. Raphaël, j'ai envie de dire, heureusement qu'ils tombent sur Carolina ce dimanche.
Oui, oui, là, ils sont vraiment bénis, on va dire ça comme ça, par le calendrier qui leur permettait de finir par Carolina pour obtenir le titre de champion, parce que sincèrement, face à n'importe quelle autre équipe de la Ligue, je pense que ça le faisait pas. Et du coup, c'est vrai qu'on est un peu dubitatif face à ces Buccaneers qui semblaient être bien avec 4 victoires de suite et qui, là, sur les 2 dernières semaines, tombent contre les Saints et sont catastrophiques contre les Panthers. Alors, Baker Mayfield est blessé aux côtes, visiblement un peu gêné dans ses lancers, mais bon, ça explique pas tout en attaque. Non, c'est pas une très bonne dynamique hein, quand même avant d'arriver en playoff.
Oui, un euphémisme.
Heureusement que face à eux, ils auront une équipe avec encore une moins bonne dynamique, on y reviendra. Mais non, c'était pas un beau match. Bon, ils sont champions, c'est le principal, mais.
C'était un match
sur le contenu, il y a pas grand chose quoi. Enfin,
228 yards seulement pour Tampa, 199 du côté des Panthers, c'était vraiment ignoble. 0 sur 3 dans la zone rouge pour Tampa, et tu le disais, vraiment un Baker Mayfield. Bon, il est à 20 sur 32, mais pour 137 yards seulement, donc ça a été vraiment. Il y a aucune passe de plus de 10 yards dans les airs qui a été complétée, il est à 0 sur 8. Tu penses que c'est vraiment, il est gêné par ses côtes, quoi?
Ah, je pense un peu. Sincèrement, je pense que les côtes, là, depuis la semaine dernière, notamment, le font pas mal souffrir. Ça explique pas tout, bien entendu, mais à mon sens, ça aide pas. Et vu que ce jeu au sol n'arrive toujours pas vraiment à décoller, Rachaad White reste précieux en réception, en sortie de backfield, mais sur le jeu au sol en tant que tel, c'est toujours un peu moyen. Bon, t'as une attaque qui patine un peu plus.
Ouais, non, ça a été vraiment très très compliqué pour cette équipe. L'action décisive du match, c'est Antoine Winfield au final qui la signe. Il arrache le ballon des mains de DJ Chark pour éviter le touchdown dans le troisième quart. Quand on voit qu'il n'y a aucun touchdown dans ce match, c'est lui l'homme du match, Raphaël.
C'est lui l'homme du match, et tu me permets même de dire que c'est pas loin d'être le meilleur joueur de la saison des Buccaneers. Enfin, vraiment, Winfield fait une super saison. Je vous invite, si vous avez un peu l'occasion, en attendant les playoffs, à aller revoir 2-3 de ses matchs et même ses stats. Enfin, donc oui, au moins la défense c'est pas rassuré, parce qu'elle n'avait pas forcément beaucoup d'inquiétudes, mais la défense a fait ce qu'elle avait à faire, et on voit qu'elle a, c'est quand même une défense avec des joueurs d'expérience qui en playoffs peuvent poser problème à des équipes quand même, parce qu'ils savent faire quoi.
Ouais, ouais, clairement, ça peut être intéressant en playoff, ce genre de groupe. Donc la défense, c'est une bonne nouvelle. Ceci dit, en face, bon, les Panthers terminent la saison sur 8 cartons de suite sans marquer de points. Bryce Young, sur ce match-là, c'est 11 sur 18 pour 94 yards. Alors, on va sûrement pas le virer maintenant, mais là, le coach, c'est génie offensif slash psychologue qu'il faut trouver.
Ouais, ouais, va falloir effectivement rebâtir un peu sa confiance. Je crois que c'est même Hayden Hurst, le tight end, hein, cette saison, qui disait que tout le monde s'était un peu raté psychologiquement et qu'il fallait que tout le monde se remette un peu de l'avant et se refasse un peu confiance et reparle, etc. Donc, oui, ils ont l'air d'avoir besoin d'un coach... presque plus psychologue que tacticien, peut-être.
Oui, là, il va falloir... Jim Harbaugh ?
Oui. Non, mais en vrai, Jim Harbaugh qui vient avec un bon coordinateur offensif, pourquoi pas ? Enfin, Jim Harbaugh, effectivement, c'est un mec, visiblement, ses équipes sont prêtes à se jeter dans le mur pour lui, donc c'est un peu ce qu'il faut, en fait.
Bon, j'envoie Jim Harbaugh partout, hein, vous inquiétez pas, je vais faire ça sur toutes les équipes libres. Visiblement, je crois que les Panthers, ça l'intéressait pas trop. Après, le proprio, il a plein d'argent, donc peut-être qu'il peut lui jeter un gros billet. Oui. Hein, ça peut
après,
faire
le proprio
d'avis.
Des Panthers pourrait être un problème en soi, il est un peu particulier.
Oui, hein, oui, il a l'air visiblement d'avoir la gâchette facile sur les licenciements et de... Oui. Ouais, ça a l'air d'être un peu particulier. Bon, en tout cas, j'allais dire, ils verront à la draft, mais non, ils verront même pas à la draft, puisqu'ils ont aussi viré leur manager général qui a échangé. Bah, c'est ça, ils ont pas de choix au premier tour. Donc, ils sont derniers de la ligue et ils ont pas de choix au premier tour. C'est quand même très très dur. Donc, là, pour le coup, on comprend pourquoi il a été viré, le manager général, hein, parce que ça pique un peu. Saints 48, Falcons 17. Les Saints et les Falcons devaient gagner et espérer une défaite des Buccaneers. Ils ont donc été déçus, ils ont joué pour rien. Victoire des Saints quand même, 17 partout à la mi-temps. Et derrière, les Saints ont pulvérisé Atlanta. 22 sur 28, 264 yards, 4 touchdowns, aucune interception pour Derek Carr. C'est un bon match, non ?
Oui, c'est un bon match. C'est un peu...
Trop tard, mais c'est un bon match.
Voilà, c'est un peu dommage qu'il arrive quand même en semaine 18 pas au plus mauvais moment, parce qu'il y avait quand même une possibilité que ça suffise pour aller en playoff, mais ça arrive un peu tard. Disons que sans dire qu'on attendait les Saints qui mettent 48 points à tous les matchs toute la saison, on s'attendait quand même à ce que l'arrivée de Carr leur permette une certaine régularité et qu'on les voit un peu plus proches de ce visage-là que ce qu'on a vu une bonne partie de la saison. Donc voilà, New Orleans va falloir repartir avec Carr là-dedans et essayer de trouver ce qui a marché sur ce dernier match et d'en garder comme une continuité pour la semaine prochaine, pour la saison prochaine.
La saison.
Ouais, ouais, pour la saison prochaine. Bon.
C'est sa meilleure évaluation en carrière, ce match. Après, du coup, ça sauve Dennis Allen, donc on va repartir sur les mêmes choses. C'est un peu ça le problème. La rumeur maintenant, c'est John Gruden qui viendrait pour. Alors. On aime ou pas le personnage de John Gruden, mais ça aiderait peut-être leur attaque. Hein.
Ça peut aider leur attaque. Hein, c'est pas
offensif.
Oui, oui, c'est pas un mauvais coach offensif, ça c'est clair. Surtout que Derek Carr avait eu quelques belles saisons, enfin avait eu des saisons pas trop mal avec Gruden à Las Vegas.
Ça pourrait être intéressant. Et au niveau en plus des joueurs, il y a eu des rookies, des joueurs jeunes. Kendre Miller, le coureur, a plutôt bien marché avec 73 yards et un touchdown. Le receveur E.T. Perry aussi a marqué 2 touchdowns. Donc il y a aussi la satisfaction des rookies qui leur donne un petit peu d'espoir. Ça va être intéressant. Faut noter, parce que l'anecdote est quand même assez dingue, hein. Ils ont joué jusqu'au bout. Parce qu'ils menaient 41-17, 1 minute 10 à jouer, ils allaient poser le genou au sol, et là, Jameis Winston vient sur le terrain mettre un quarterback sneak pour coller un touchdown de plus aux Falcons dans un match qui ne sert plus à rien. C'est merveilleux, c'est du Jameis Winston, quoi. Là, y a...
C'est Jamal Williams qui met le touchdown sur le QB, sur le...
Non, non, c'est Jameis Winston.
Ah ouais, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était Jamal Williams.
Non, non,
qui...
c'est un quarterback sneak de Jameis Winston.
Ok.
Ah non, pardon, t'as raison. T'as raison. Non, non, c'est Jamal Williams, autant pour moi.
Tu m'as perturbé. C'est Jamal Williams. Oui, oui, non, pour moi, c'est Jamal Williams. L'équipe a expliqué en plus qu'il avait pas marqué de la saison, ça avait été un peu compliqué, ils étaient heureux d'avoir fait ça. Bon.
Ok, autant pour moi. Je croyais que Winston
non,
avait
un
truc là-dedans.
Non, non. Bon, en tout cas, ça n'a pas été bien pris par les Falcons. Disons que ce qui était peut-être pas très classe, c'est le fait de s'être mis en position de quarterback qui met le genou au sol, en fait.
Alors justement, c'est pour ça que j'étais persuadé que c'était Winston, c'est que en fait, apparemment, Dennis Allen avait vraiment appelé une action de fin, et j'ai vu Winston expliquer à la presse, disant que c'était une décision d'équipe de faire marquer Williams.
Du coup, Denis Allen tient son équipe. Hein.
Oui, très bien. C'est-à-dire que bon les gars, on pose un genou au sol. Ouais, ça marche. Ok, merci. Non, on préfère s'embrouiller avec l'équipe d'en face.
Ouais, c'est
Du côté donc de la défense, on a bien fait déjouer Desmond Ridder. Alors on sait que ça défend bien hein, du côté des Saints. Oui. Desmond Ridder, alors il a été excellent en première mi-temps. 14 sur 16, 231 yards, 2 touchdowns à la pause. Donc pendant 30 minutes, c'est Tom Brady. Derrière, 8 sur 14, 60 yards, une interception, un fumble perdu. J'ai l'impression, en fait, dès qu'il faut courir derrière le score, c'est panique à bord, quoi.
C'est ça. Quand il faut tenter de revenir, c'est compliqué pour lui en termes de lecture, en termes de précision de passe. Il se met à un peu tout forcer, tout faire trop vite. Et c'est ça. Donc c'est sans aucun doute, du coup, le statut d'un quarterback remplaçant NFL, mais pas d'un titulaire, quoi.
Oui, je pense que là, on a suffisamment parlé de la situation, je pense, avec Arthur Smith, pour passer à la suite. La suite, c'est Cardinals 20, Seahawks 21. Victoire de Seattle sur une conversion à 2 points, à un peu moins de 2 minutes de la fin. Les Cardinals avaient manqué un field goal de 43 yards juste avant. Ils ont manqué un field goal de 51 yards juste après, à la dernière seconde. Donc les Seahawks s'en sortent quand même plutôt bien, mais pour rien. Raphaël, est-ce que la satisfaction, ça restera quand même que Geno Smith confirme?
Je pense que oui, c'est... Comment dire, Seattle a voulu retenter l'expérience cette saison après une saison très surprenante de Geno Smith. L'an dernier, la saison leur a plutôt donné raison. Il y a eu un petit creux, mais à l'image de toute l'équipe, il s'est bien relancé derrière. Ça leur permet quand même de voir la suite, enfin de continuer à prendre un peu le temps de trouver la relève au poste de quarterback, de ne pas forcément se précipiter dès cette année. Là-dessus, c'est un bon signe. Après, le problème, je trouve que la grosse déception, c'est cette défense qui n'a jamais trouvé le rythme tout au long de la saison, malgré des ajouts intéressants, malgré des jeunes. Et là, il y a un vrai souci, parce que quand même, l'ère Pete Carroll à Seattle, c'est avant tout une défense. Et ça fait un moment qu'ils n'arrivent plus à trouver la clé en termes de coaching en défense. Donc là, il y a une vraie interrogation pour moi.
Oui, je pense que c'est un peu ça. C'est pour ça que je parlais de Geno Smith comme satisfaction. C'est parce que la défense, par contre, ça a été un énorme problème. Ce sera le chantier de l'intersaison. Et ce sera avec Pete Carroll, puisqu'il a dit qu'il continuait. Hein. Il l'a annoncé à la presse. 72 ans ou 71 ans, 72 ans, je crois, Pete Carroll.
Il l'a fait, coach, lui, vraiment.
Non, c'est vrai qu'il est fait moins que Bill Belichick, qui a juste un an de moins que lui, si je ne dis pas de bêtises. C'est les deux coachs les plus âgés hein, de la ligue. Ils sont nés. Donc il est né en 51, Pete Carroll. Qu'est-ce qui se passait en 1951? Attends, qui était président des États-Unis en 51?
En 51, t'as fini. Est-ce que c'est pas Eisenhower?
Attends, en fait, on peut dire par exemple qu'il avait 12 ans, donc il doit se rappeler de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, par exemple, Pete Carroll.
Sans aucun doute.
Tu vois, il doit se rappeler de l'assassinat de JFK en 63, se dire ah, mais oui, je m'en rappelle, j'étais à l'école, etc. Bon. Du côté des Cardinals, alors on repart avec pas mal de bonnes ondes aussi, j'ai l'impression, du côté d'Arizona. James Conner est à 150 yards, il passe les 1000 yards pour la première fois sur une saison. Kyler Murray est à 22 sur 30, 262 yards et un touchdown, aucune interception. On dirait qu'ils ont quand même leur quarterback, leur coach. Ça a été une équipe beaucoup plus sérieuse que prévu pendant toute l'année.
Oui. Je trouve même qu'en attaque, on a vu progressivement Michael Wilson, le receveur rookie, être de plus en plus intéressant. On a Trey McBride au poste de tight end qui s'est aussi plus ou moins affirmé. Non, en attaque, il y a pas mal de pièces intéressantes pour la suite. C'est, comme tu dis, le coach en plus a globalement rassuré en termes de tenue d'équipe, j'ai envie de dire. Donc c'est pas mal. Le gros chantier, à mon sens, reste la défense, qui manque clairement de talent, et c'est là-dessus qu'il va falloir miser. Mais ils ont des choix intéressants à la draft. Ça peut être assez intéressant à suivre à l'intersaison.
Est-ce que c'est la meilleure équipe à 4 victoires de l'histoire?
Et bien peut-être.
Franchement, c'est l'équipe à 4 victoires la plus sérieuse qu'on ait vue.
La moins déprimante de celles à 4 victoires, en tout cas cette année, ça c'est clair.
C'est ça, c'est une manière de dire les choses. Ouais, je trouve que c'était quand même plutôt pas mal. En 1951, Léo Ferret a enregistré... Qu'est-ce que je trouve? Alan Freed, succès de l'année en France, La Petite Lily, opérette de Marguerite Monod, créée à l'ABC de Paris avec Édith Piaf. Voilà, pour situer...
Très bien, très bien.
Situer Pete Carroll.
Et du coup, notre président américain...
Ah oui, attends, pardon, t'as raison, la liste...
Non, attends, ça doit être... Eisenhower ou Truman, je dirais. Un des deux.
Oui, je pense que tu es là-dessus.
Truman ou Eisenhower.
Tac, 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 je remonte. Ils ont été nombreux. 45 à 53, Harry S. Truman, démocrate. Ouais. Ouais, Eisenhower, c'est 53, c'est juste après. Ouais. Donc, bien joué, très bien vu. Et après, donc, Kennedy, Lyndon Johnson. Très bien.
Révisez votre histoire des États-Unis avec cette jeune actrice.
Derrière, vous avez Richard Nixon, Gerald Ford. En fait, ça doit être beaucoup plus dur pour les... Nous, on apprenait les présidents français quand on était gamin, mais il n'y a pas tant de présidents que ça dans la 5e.
C'est vrai.
Alors
en
que eux, c'est des mandats de 4 ans, ça défile quand même. Hein.
Ça défile, oui. Ouais.
T'en as quand même quelques-uns. Puis alors, dans For All Mankind, je dis pas. Alors, du coup,
il y a quand même Nixon dans For All Mankind. On a quand même Nixon.
Il y a Nixon et Bush père, il est vice-président à un moment.
Oui, il est vice-président. Tout à fait.
C'est un monde parallèle où George W. Bush n'a pas été président.
Oui, c'est Al Gore qui est président du coup.
Oui, ah mais oui, ça c'est dingo. Ah ouais, alors pour les gens qui comprennent pas ce qu'on est en train de dire, parce qu'en fait on est en train de poursuivre une discussion qu'on avait hors antenne. J'ai commencé à regarder une série Apple TV qui s'appelle For All Mankind et qui retrace la conquête lunaire, la conquête spatiale. Et donc le pitch de la série, c'est que qu'est-ce qui se serait passé si les Russes avaient marché en premier sur la Lune. Voilà, je vous en dis pas plus. On a juste spoilé que Al Gore finit par être président en 2001.
Donc vous vous doutez bien que tout ne s'est pas passé comme...
Donc voilà, ça a changé énormément de choses. Et encore là, je vous dis le truc le moins étonnant qui se soit passé, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même un petit peu... Surtout en termes de politique américaine, je pense qu'on fait un bon teasing. Hein. Apple TV, si vous voulez prendre de la pub, on vend bien le truc. Il s'est passé quand même des trucs assez incroyables sur le plan politique américain dans For All Mankind. Très bonne série, en tout cas, on vous la conseille. Et je remercie Raphaël à l'antenne de me l'avoir conseillé, notamment.
Avec plaisir.
Petite pause et la suite.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Des matchs.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Est-ce que, Raphaël, on avait déjà fait Channel Random, est-ce qu'on fait un podcast série après? Parce qu'on a dit dans un épisode précédent, celui d'hier, je crois, on avait dit si on faisait un podcast Kaamelott, on ferait sûrement plus d'écoute.
Ouais.
Bon, bah, on n'a qu'à faire un podcast série.
C'est vrai qu'on pourrait tenter en série, faudra voir ça.
Allez, on parle du match entre les Giants 27, Eagles 10. Les Eagles sont en playoff, mais alors qu'est-ce qu'ils sont inquiétants? Leur titulaire était sur le terrain en début de match, mot-clé, parce qu'ils se sont retrouvés menés 24-0 à la pause et Nick Sirianni a mis les titulaires sur le banc tellement c'était la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe avec Philadelphia, Raphaël?
C'est une sacrément bonne question. Depuis notamment leur bye week, c'est très très compliqué en termes de contenu, de ce qui est proposé sur le terrain. Ce qui se passe, je sais pas vraiment, parce que la défense, alors ce qui est certain, c'est que la défense est très mauvaise. Ça, c'est assez visible. Il y a pas de couverture aérienne. Le pass rush est pas au niveau de l'an dernier. En défense, on voit le problème. Peut-être les blessures, le manque de talent, tout ça. Mais c'est vrai que c'est l'attaque qui est le plus étonnant au final. Depuis plusieurs semaines, en attaque, ça patine totalement. Alors là, AJ Brown était blessé, puis on a eu Hurts qui a eu Bobo au poignet. Enfin bon, ça commence à s'accumuler aussi. Mais la ligne offensive est moins dominante, le jeu au sol est beaucoup moins dominant. Enfin, Il y a pas mal de petits problèmes des deux côtés du ballon. Le plus surprenant, je le redis, c'est du côté de l'attaque. Que c'est surprenant, mais Sirianni est en train de perdre le fil. Il y a eu ce changement de coordinateur défensif un peu chelou en cours de saison, sans vraiment le dire, mais ils l'ont quand même fait. Il y a panique à bord, c'est clair. Moi, je continue à penser que c'est plus un problème coaching psychologique de retrouver la clé, parce que bon, les joueurs, ils sont là, tu vois. Je crois pas que ces joueurs soient tous devenus nuls d'un coup. Enfin, j'ai du mal à l'entendre.
Bah, on rappelle quand même que c'est une franchise qui avait perdu ses deux coordinateurs pendant l'intersaison. Donc, il y a peut-être un moment où les nouveaux sont peut-être arrivés à court de renouvellement, de nouveautés, là où les autres y arrivaient encore l'année dernière. Mais tu le disais, le truc numéro un, c'est quand même la défense. Ils ont fait passer Tyrod Taylor pour une star, quoi. Ouais, 3 sur 32, 297 yards, un touchdown, une interception. Ils se sont fait dégommer vraiment là-dessus. Saquon Barkley fait un petit match, mais il marque 2 touchdowns. Un des problèmes, c'est aussi les turnovers. Hein. Ils ont le pire différentiel de turnover de la ligue depuis la semaine 13. Ils sont à moins 8. Mm. Le problème, la question quand même là, c'est est-ce que tout ça peut se régler en une semaine ? Parce que
C'est un peu la question.
On va dire voire deux, mais mine de rien, j'ai l'impression que les Buccaneers, c'est une équipe qui a un titre. Alors, il n'y a plus Tom Brady, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont un titre dans cet effectif des Buccaneers, qui n'ont pas peur de grand-chose en play-off, etc. Je suis même pas sûr que on va pas mordre sur la preview de demain, mais dans cet état-là.
Je vois ce que tu veux dire. Dans cet état-là, ils sont extrêmement en danger, ça c'est certain. On laissera nos collègues le préciser demain, mais je sais pas si c'est réglable en une semaine. Ça demande. C'est sûr qu'il y a peu de temps. Il y a peu de temps pour trouver les solutions qu'ils n'arrivent pas à trouver depuis plusieurs semaines, parce que c'est vraiment une chute libre depuis plus d'un mois. Donc compliqué à dire. On va peut-être espérer pour eux que les playoffs donnent un nouveau souffle. Maintenant, il va falloir aussi surveiller un peu les quelques bobos qu'il y a à gauche à droite.
En attaque, c'est pareil. Alors, ils sont moins puissants au sol que l'an dernier, même si statistiquement, là, ils se sauvent dans ce match au sol. Mais c'est pareil, c'est quoi la recette pour essayer de se sauver Jalen Hurts, là, il y a 7 sur 16, 55 yards, une interception, ça a été une catastrophe aussi. Alors oui, c'est un match où il n'y avait pas grand-chose, ils avaient un petit espoir de monter, mais voilà, ça joue peut-être un peu. Mais comme tu le dis, c'est pas comme si ça datait de ce dimanche, donc ça reste quand même inquiétant. Est-ce que tu vois des trucs pareils qui seraient des bons axes en attaque, quoi ?
Bah, pour moi, il faudrait rétablir la domination du jeu au sol. Enfin, c'était vraiment une équipe là-dessus qui permettait cette facilité qu'ils avaient à courir, ouvrait le playbook et permettait à Jalen Hurts de distribuer le ballon, et je crois qu'ils n'arrivent plus à installer ce jeu au sol, notamment parce que Hurts avait des problèmes de blessure en une partie de la saison, et c'est vrai qu'il courait moins, et donc peut-être le fait qu'il y avait moins de menaces du côté Hurts faisait que les défenses arrivaient mieux à contrer la course côté Philadelphie, parce que moins d'options au sol. Mais pour moi, ça passe par rétablir le sol, c'est certain. Encore une fois, ils ont les hommes pour, donc...
Ce serait pas la première équipe dont on a l'impression qu'ils sont cuits au moment des playoffs et puis qu'ils retrouvent un second souffle.
Oui.
Mais ça serait pas la meilleure dynamique.
Ça serait pas non plus la première équipe qui se tape le spleen post-défaite Super Bowl. Hein.
Il y a ça aussi, oui.
C'est pas aussi. Les premiers. Les Rams, quand ils perdent contre les Patriots, la saison d'après, elle est très compliquée pour les Rams. Ça arrive aussi des fois un peu le côté spleen.
Bon, en tout cas, match à oublier pour Philadelphie, ou en tout cas à travailler. Du côté des Giants, on a sauvé Brian Daboll pour de bon.
Oui, ça fait pas...
Voilà, ouais. on peut dire que c'est un peu l'essentiel de ce match. Après, qu'est-ce qu'on en retient d'autre, sachant qu'il jouait avec un quarterback remplaçant
Non, sur l'attaque, il n'y a pas grand-chose à retenir, à part que, plus globalement, sur la saison, on a quand même vu que Saquon Barkley était bien aussi. Alors, est-ce que ça va être sa dernière saison ou pas à New York? Ça, je ne sais pas.
Je crois qu'il paraît qu'il n'est pas très enchanté par l'idée d'un franchise tag encore.
Je peux entendre, hein, mais bon, je ne sais pas si long. Je ne sais pas trop quelle sera sa marge de manœuvre là-dessus.
Puis c'est le principe du tag, c'est qu'il n'a pas le choix. Donc.
Voilà, c'est ça. Non, après, la défense a progressivement retrouvé de la solidité, mais en même temps, ils viennent de virer Wink Martindale, leur coordinateur défensif. Donc bon,
alors, c'est un peu contradictoire. Il est dehors ou pas? Parce qu'il y avait
pour moi, il est dehors.
Ah d'accord, parce que il avait posé sa démission. Les premières rumeurs c'était qu'il était safe, mais t'as raison, je crois qu'il a fini par partir.
Non, pour moi il est dehors. Et ce qui mine de rien relance un peu un chantier malgré tout d'intersaison. Mmh. Hein, faut trouver un coordinateur défensif.
Ça reste une équipe qui reste une énigme pour moi pour la saison prochaine.
Oui,
tu vois,
récupérer
Daniel Jones, ça va être un peu étrange. Commanders 10, Cowboys 38. Alors, c'est tout le contraire des Eagles. Hein, pour les Cowboys, ils ont déroulé pour s'échauffer avant les playoffs. Ils n'ont pas punté une seule fois dans ce match. Ils ont volé 3 ballons aux Commanders. Dak Prescott est à 31 sur 36, 279 yards, 4 touchdowns, 1 interception. CeeDee Lamb va encore 2 fois dans la end zone. Là, pour le coup, eux, on ne pouvait pas faire mieux.
Non, on ne pouvait pas faire mieux avant les playoffs, histoire de se rassurer. De toute façon, cette saison, Dallas, en dehors de la défaite surprise contre Arizona, quand ils rencontraient une équipe faible, en général, ça leur roulait dessus, il n'y avait pas vraiment débat. Ce qui est quand même un bon signe, en général, sur l'état d'une équipe dans les prétendants au titre final. Mm. Prescott et Lamb finissent vraiment très très fort la saison. CeeDee Lamb, là, ça va faire 2 mois qu'il est en feu total. Prescott, je trouve aussi, est excellent et peut-être même qu'on n'en parle pas assez. Alors oui, il y aura toujours la question du craquage mental dans le match qui compte, des choix, de la gestion du chrono de Mike McCarthy. On va le voir là. Mais sur le papier, la saison a montré qu'ils avaient ce qu'il fallait pour aller au bout. Honnêtement, c'est une équipe qui est capable de battre tout le monde sur un match.
Ah ouais, non, ils sont très très sympas à avoir joué. Ils piquent au bon moment. Ça va être vraiment pas mal. Ils ont les playmakers. Prescott et il aurait pu être dans la discussion pour le MVP. Est-ce qu'il manquait un match un peu, encore un peu référence?
Il manque peut-être un match un peu.
Ouais, ils prennent une volée contre les Niners. Alors c'était il y a longtemps maintenant.
Je pense qu'ils perdent contre les Niners et les Bills. Peut-être que ces deux matchs-là, si t'en as un qui le remporte avec un gros Prescott, peut-être que dans la tête un peu des votants, ça change aussi un peu la donne, quoi.
Peut-être, ouais, peut-être. Du côté des Commanders, alors ils ont le second choix de la draft, je vérifie. Donc les Patriots sont bien en 3 en fait.
Okay,
c'est Bears, Commanders, Patriots. Donc ils ont le deuxième choix de la draft. Je suppose qu'il va être utilisé pour remplacer Sam Howell.
Je pense aussi.
Qui nous a fait encore du Sam Howell, 19 sur 27, 153 yards, un touchdown, 2 interceptions. On l'a dit, Ron Rivera est viré, on a parlé un peu de la situation, donc on ne va pas s'éterniser, mais on sait que c'est écrit là avec le deuxième choix. Normalement, la team draft nous dira mieux ça, mais ça a l'air de se diriger vers ça.
Oui, ça a l'air de se diriger vers ça, j'espère pour eux, mais c'est vrai que là c'est tellement un chantier entre le coach, tout ça, que c'est dur de voir vers où ils vont vouloir aller. Mais il y a du chantier quand même, hein. Faut pas oublier que cette intersaison ils ont quand même viré Chase Young et Montez Sweat, leurs deux jeunes pass rushers, et du coup ça va faire 2 mois qu'ils ne sacquent plus, qu'ils ont plus de pass rushers. Bon, il y a le backfield défensif a pris l'eau toute la saison. Enfin, c'est quand même une équipe où il y a des choses à faire. Hein. Je veux dire, ça va pas s'ennuyer. Hein.
Clairement, oui. Quand ils vont chercher des pass rushers en nous expliquant qu'il faut dépenser des choix de draft alors qu'ils en avaient deux,
c'est pas eux là qui viennent peut-être de recruter le GM des Warriors de NBA.
Si.
C'est pas eux. Pas en GM, hein, mais en consultant.
Oui. Consultant machin, ouais. Je crois que c'est eux. Ouais. Ouais. Je veux pas dire. Oui, c'est.
Je sais pas là. Tout d'un coup, j'ai un doute en vrai. Désolé de lancer des intox.
Non mais attends, je vais vérifier parce que j'ai l'article sous les yeux. Oui, c'est ça. Ils ont embauché Bob Myers, l'ancien général manager des Golden State Warriors, donc l'équipe Stephen Curry, etc. Et Rick Spielman, l'ancien GM des Vikings aussi. Et donc, officiellement, ces deux-là doivent aider au recrutement du nouveau coach, déjà, dans un premier temps. Bon, c'est original. En tout cas, c'est hype, quoi. Le nouveau proprio, visiblement, il avait envie du nom qui claque. Lions 30, Vikings 20. Alors, les Lions ont décidé de faire jouer leur titulaire, même s'il y avait peu de chances que leur classement bouge. Ça leur a coûté Sam Laporta, hyper extension du genou, qui pourrait lui coûter le début des playoffs. Raphaël, tu étais sur ce match avec Lucas sur Sisplay. Est-ce que ça valait le coup?
Non, pas forcément. Après, c'est facile à dire une fois que la blessure arrive. Parce qu'avant que la blessure arrive, je veux dire, Sam Laporta, il bat le record de réception pour un rookie tight end. Il bat le record de touchdown pour un tight end rookie. Enfin, il inscrit aussi son nom dans l'histoire de la ligue. Et ça marche bien. Ça permet de répéter ses gammes avant les playoffs. Ça permet de se mettre en confiance. Enfin, tu vois, les Cowboys sont pas mis CD Lamb au repos et ça s'est bien passé. Donc, c'est oui, maintenant qu'il y a blessure, forcément, on a l'impression que c'est débile. Après,
mais les Cowboys avaient leur destin en main, si je dis pas de bêtises.
Oui,
ils
c'est vrai qu'il fallait
pour assurer la deuxième place.
Oui, enfin, CD Lamb, ils jouent encore tard dans le match, hein, même quand ils ont une bonne quinzaine de points d'avance, tu vois. Enfin, bon, ouais, ouais. Je comprends dans l'idée. Maintenant, ça aurait pu aussi se passer autrement et ça, c'est un peu de malchance. Je sais pas si c'était à faire ou pas, franchement. Je sais pas.
Est-ce que t'as vu le même match qu'on avait déjà vu avec Greg à Noël? C'est-à-dire que, parce qu'on a fait à chaque fois Lions-Vikings deux fois sur les trois dernières semaines. C'est-à-dire que c'est un peu le même match qu'à Noël, c'est-à-dire que Détroit est bon en attaque, il y a encore un bon Jared Goff, 320 yards de touchdown, Amon-Ra St. Brown est encore exceptionnel. Et les Vikings ont des coups d'éclat, mais bah, Nick Mullens fait des erreurs. Donc,
oui, c'est voilà, exactement quoi. Ça. C'est, les Vikings, il y a un coaching et il y a des joueurs talentueux qui permettent sur des coups d'éclat de rester accrochés au score. Mais la limite de Nick Mullens finit par plomber l'équipe. Et, non, mais c'est ça.
Bon, on a vu le même match.
C'est ça,
exactement. et Justin Jefferson est toujours exceptionnel. 12 réceptions, voilà. 192 yards et un touchdown. Il claque une saison à 1 milliard en 10 matchs.
Ouais, c'est ça, tranquille.
Incroyable. Petite ouverture vers l'année prochaine. Kirk Cousins est libre. Est-ce que le but, c'est d'essayer de le garder aux Vikings?
Pour moi, oui. Pour moi, oui. Avec le début de saison qu'il faisait, Kirk Cousins, et compte tenu du marché des quarterbacks à l'heure actuelle en NFL, de ce que tu peux ne... et a priori le fait que t'es trop à la draft pour aller prendre un jeune, pour moi il y a zéro hésitation. T'as Kirk Cousins, t'as deux receveurs très bons, un exceptionnel et un deuxième très bon, t'as TJ Hockenson. Enfin, je veux dire, faut profiter de cette fenêtre, signer Cousins et essayer d'aller le plus loin que tu peux, quoi.
Ouais, totalement d'accord. Du côté des Lions, on recevra les Rams de Matthew Stafford en playoff. Ce sera les retrouvailles. Et ce sera aussi les retrouvailles pour Jared Goff, mine de rien, qui va essayer de se venger des Rams.
Non, mais c'est un beau storytelling, celui-là. Franchement.
Ouais. Clairement, Goff qui retrouve l'équipe qui s'est débarrassée de lui, il va être pas mal. 49ers 20, Rams justement 21. Alors, match de remplaçant, là, on commence à rentrer dans les matchs dont je vous parlais qui sont peut-être un peu moins dingos. Puisque là, on a vraiment deux coachs qui, eux, avaient décidé de mettre tout le monde sur le banc. Alors, totalement logique pour les 49ers, puisque eux, ils n'avaient vraiment strictement rien à jouer. Ils étaient assurés de la première place. Les Rams devaient peut-être pouvoir bouger selon certains scénarios, mais je crois
qu'ils pouvaient bouger en cas de défaite, bah, notamment des Packers. Une défaite des Packers leur permettait de bouger un peu, ouais.
Pour le scénario, Sam Darnold perd un fumble sur le dernier drive alors qu'il pouvait aller chercher la victoire, et c'était Carson Wentz en face. Voilà, j'avais envie de dire Sam Darnold, Carson Wentz, juste pour vous situer ce qu'on a eu. Pukanakwa termine la saison avec 105 réceptions, 1486 yards, record pour un rookie à chaque fois. C'est la seule chose à retenir de ce match, c'est pour ça que je cite ça, mais il y a que ça à retenir, non?
Ouais, oui, globalement il y a que ça à retenir. Après, moi j'aurais ajouté au-delà même de Pukanakwa, j'ai trouvé qu'encore une fois on a vu beaucoup de rookies, Byron Young, Kobe Turner, on a vu beaucoup de rookies du côté des Rams qui se sont montrés, et c'est prometteur quand même pour la suite.
Ouais, ils ont fait une bonne draft, clairement, ils l'ont eu. Après, les remplaçants des 49ers sont pas mal joués.
Non, mais c'est deux belles équipes, hein.
Ouais, ça montre que du côté des 49ers, c'est ultra solide et ultra profond. Mais voilà, et la stat marrante de ce match, c'est quand même que Carson Wentz a couru 17 fois pour 56 yards. C'est le meilleur coureur des Rams sur ce match. Ouais. Voilà, c'est la stat un peu what the fuck. Bon, Wentz et Darnold, ils ont assuré leur place sur un banc pour l'an prochain.
Allez, bravo.
Ils étaient là pour ça. Chargers 12, Chiefs 13, match de remplaçant aussi. Aucun touchdown offensif. Il n'y a qu'un seul touchdown dans tout le match, c'est un retour de fumble de 97 yards. C'était un match vraiment what the fuck. Alors, pareil, les Chargers, il n'y a que des remplaçants sur le terrain, oui et non, parce que disons que c'est la fin de saison, tout le monde est à moitié blessé et tout le monde est à moitié plus là. Et les Chiefs, eux, c'était par choix, c'était au repos, Blaine Gabbert était titulaire. Bon, du coup, on n'a pas vu grand-chose.
Non, honnêtement, on a rien vu, si ce n'est Chris Jones qui, avec son sac, remporte $1 million en bonus parce qu'il atteint la barre des 10 sacs. Bravo à lui, franchement. Ça m'a beaucoup fait rire en voyant le match.
Ouais. J'aime bien les commentateurs américains, d'ailleurs, étaient beaucoup axés là-dessus ce week-end quand tu regardais les différents matchs. C'était genre, ah non, mais là on regarde parce qu'un tel va gagner $1 million. Genre, félicitations à lui. Bon,
donc tant mieux à lui. Hein. Rappelons qu'il avait un peu boudé en début de saison à l'intersaison. Donc là, il doit être beaucoup plus heureux avant les playoffs. Il est content, et tant mieux, parce qu'un Chris Jones content, c'est une bonne nouvelle sur le terrain pour les Chiefs. Donc voilà.
C'est vrai. Il est dans une bonne disposition pour attaquer les playoffs. Les Chargers, eux, bah, c'est été de reconstruction de, sur le banc, hein, notamment. Il va falloir trouver un coach. Jim Harbaugh.
Oui, eh ben allez, Jim Harbaugh. Allez.
Il paraît qu'il est intéressé sur celui-là.
Ah bah, je peux l'entendre. Il y a un quarterback, il y a quelques joueurs de talent. Oui, il y a des choses à construire, ah ouais. Mais il y a un quarterback déjà. Enfin...
Je pense que clairement, Justin Herbert plus Los Angeles...
Puis si je dis pas de bêtises, il vient quand même de se taper plusieurs saisons dans le Michigan, dans un climat pourrave. Bah,
c'est ça.
Bon, c'est allez, ça. Un petit coup à Los Angeles. Enfin, Los Angeles, j'allais dire San Diego, pardon. Ouais, Los Angeles. Bon, allez, un peu de soleil.
Raphaël qui vient de se faire beaucoup d'amis dans le Michigan tout d'un coup.
Non, mais alors, je n'ai aucun problème avec le Michigan, mais même eux reconnaîtront que leur climat est vraiment pourri de pourri, quoi. Ouais.
On sait que t'es pas le mec qui aime bien vivre par moins 12 de toute façon.
Donc, moins 12, et si je dis pas de bêtises, dans le Michigan, en plus, l'été est très très chaud. Hein. C'est assez l'extrême, ouais. Si je dis pas de bêtises.
Attends, Ann Arbor, météo. On fait beaucoup de recherches en direct aujourd'hui. Météo à Ann Arbor, États-Unis, Michigan, parce que c'est Ann Arbor la fac, donc on va être précis. Là, actuellement, il fait 4 degrés, ressenti moins 1, au moment où la qualité de l'air est plutôt bonne. Tu le sauras. Ah oui, on est à moins 12 lundi par exemple, moins 16 mardi.
Ah ouais, tu vois, attends. Mais...
Moins 10 jeudi. Ah ouais, ça tabasse hein, quand même.
Parce que. Non, mais. Ouais. Il me semble que Détroit en été, tu peux avoir des grosses chaleurs un peu en mode Chicago, tu sais, comme on voit dans les séries Chicago l'été où c'est un peu invivable, ouais. Irrespirable.
Je cherchais un peu. Météo Détroit à l'année, on va dire, allez.
Après, peut-être que Détroit est plus froid que Chicago. J'avoue que j'avais Chicago en tête, qui est dans l'Illinois, mais...
Ah oui, bref. Donc, à Détroit, il fait en effet... il peut faire 29 degrés en juillet, 28 en août, etc. Donc oui, c'est ça, en fait. Les maximales sont assez élevées. Et les minimales, janvier, moins 7, février, moins 6, ouais. Mars, moins 3...
C'est des sacrés deltas, hein.
Ouais, ouais, clairement. Et tu montes très, très haut. Ouais, c'est des trucs où... J'aime bien parce que je suis tombé sur un site quand partir, etc. Et donc ils disent tu peux partir en mai, juin, juillet, etc. Bon, après, je sais pas ce qu'il y a à faire à Détroit, même en mai, juin, juillet. Tu vois, dans les. Je sais pas si c'est l'endroit où je vais en vacances, même en mai, juin, juillet. Disons que c'est pas une ville qui a été très bien vendue par les informations ces 20 dernières années.
Ouais. Clairement,
en termes de tourisme, tu veux, l'office de tourisme a pas fait un super boulot auprès des chaînes d'infos.
Non.
On enchaîne avec Bengals Browns, 31-14 pour les Bengals, victoire des Bengals contre les remplaçants des Browns là aussi. Cleveland a vraiment traité ça comme une semaine de repos. Hein. Il y avait personne sur le terrain. Joe Flacco n'était pas là. Et c'est Jake Browning du coup qui s'est illustré, qui a porté son équipe en positif, mine de rien, malgré toutes les blessures. Jake Browning, 18/24, 156 yards, 3 touchdowns. Une interception, donc bilan positif pour toute la division hein, d'ailleurs AFC Nord. On peut dire quand même que c'est une bonne saison pour Zach Taylor.
Oui, c'est une bonne saison pour Zach Taylor parce que là, avec la blessure de Burrow, t'avais tout d'un coup tous les espoirs de playoff et on pensait que ça allait être vraiment compliqué. Et malgré ça, il reste en bilan positif, donc ça prouve que dans la construction de l'équipe ou dans, on va dire, les idées, les choses sont quand même sur les bons rails et qu'il ne faut pas grand-chose de plus pour que l'an prochain, l'équipe ait les quelques victoires qui manquent pour aller en play-off. Quoi.
Et Jake Browning, alors je voulais quand même souligner, parce que c'est quand même une situation, c'est des trucs qu'on voit qu'en NFL ou dans le sport américain, il a donné en interview après, il a expliqué, il a dit « j'ai montré que je peux être titulaire ». Ce qui n'est pas totalement fou, d'ailleurs, dans un bon cadre. Il a montré qu'il pouvait être solide ou être un peu de ses gars à la Garner Minshew, qui était borderline. Mais est-ce que tu sais c'est quoi sa situation contractuelle, Raphaël ?
Ah, sa situation contractuelle ? Ah, bah alors là, non, pour le coup, non.
Alors, il sera libre à la fin de l'année, mais il sera exclusive rights free agent.
Ah, désolé pour lui, mais si je suis Cincinnati, c'est un tender. Enfin, ouais, tu peux mettre un truc pour le retenir, c'est ça hein, sur...
Et en fait, ils peuvent lui mettre un contrat minimum d'un an pour le retenir. Donc, c'est vraiment comme si votre patron vous disait « Écoute, tu es libre de tout contrat, mais tu ne peux négocier avec aucune autre boîte et je ne te paierai que le SMIC.
» Et c'est... Oui.
Voilà. Donc, en fait, t'es pas libre du tout. T'es juste... on t'a eu, quoi, pour
c'est
un
ça.
An.
Et très honnêtement, si j'étais Cincinnati,
ils vont le faire.
C'est ce que je ferais.
C'est doublure de luxe au salaire minimum.
Ouais.
Donc, c'est dur. Enfin, je trouve ça vraiment dur d'appeler ça free agent parce qu'en vrai, le mec n'est pas du tout libre. C'est vraiment une arnaque totale, quoi. je trouve que l'arnaque est quand même assez dingue, quoi. Mais bon. Écoute, Raiders 27, Broncos 14, c'était encore un match audition pour Antonio Pierce et Aidan O'Connell. Je vois notamment chez les fans des Raiders sur les réseaux sociaux, et alors les joueurs aussi, beaucoup de « faut garder Antonio Pierce ».
Oui. C'est vrai.
J'ai dû... Honnêtement, je... bon, ok, très bien.
Mais c'est... Alors, surtout qu'ils ne le prennent pas mal, hein. Mais c'est... Ça m... Enfin, c'est les fans des Raiders, si tu veux. C'est... Non, mais...
C'est ah des... oui, Raphaël, aujourd'hui, il attaque.
C'est des passionnés et c'est des gens qui sont plus dans l'émotion et dans le plaisir du jeu que tu vois dans la recherche de la victoire, objectivement.
C'est vrai.
Donc, s'ils s'attachent à une personne, je suis pas étonné qu'ils appellent à vouloir le garder. C'est dans ce sens-là que je dis ça.
Oui, ils ont des... Tu veux dire qu'ils ont des sentiments entiers vis-à-vis
c'est ça,
de leurs
c'est
joueurs
ça. Leur joueur et c'est un peu fan jusqu'à la mort et tant que le gars est leur coach, bah ils vont le soutenir jusqu'à que ça aille
c'est
plus
vrai.
Quoi.
Bon alors il faut le dire, ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs. Mmh. Ils ont battu Chargers, Chiefs, Broncos, donc des jeux que de leur division et ils ont perdu que 3 points contre les Colts. Ils perdent 23-20. Moi, je pense que, alors évidemment, je lui donnerai pas tout de suite. Faut quand même faire passer beaucoup.
Oui, je pense aussi, voilà, faut le mettre en concurrence. Et tu vois, suivant qui t'as potentiellement la capacité de faire venir ou pas, qui il te propose aussi en tant que coordinateur, est-ce qu'il change de staff, est-ce que tout ça, quelle vision il a pour le long terme. Bon, tu fais passer les entretiens et tu vois, je suis d'accord.
Bon, encore une fois, c'est vrai que défensivement, ils ont des trucs. En attaque, il a été plutôt malin avec l'utilisation, là encore, du jeu au sol. Zamir White, il n'y avait pas Brandon, Josh Jacobs, et pourtant, ça joue bien. Il y a 112 yards pour Zamir White. Aidan O'Connell, 20 sur 31, 244 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Bon, c'est pareil, hein, Aidan O'Connell, pour avoir vu quelques matchs cette année, je trouvais ça très inégal.
Mais rookie, hein, pour le coup.
Oui, oui. Ouais,
concurrence,
pareil,
pour moi pareil que le coach, concurrence.
Ouais, il faut énormément de concurrence. Bon, en tout cas, parce que tu vois, si t'as un Jim Harbaugh, parce qu'il paraît qu'il est intéressé par les Raiders aussi. Et Jim Harbaugh, quand il s'agit de faire monter son salaire à Michigan, il est intéressé par tout ce qui passe. C'est-à-dire qu'il paraît que Jim Harbaugh est aussi intéressé par ton job, Raphaël.
Ah là, oui, mais alors par contre, le problème, je suis pas sûr que ça lui permette de faire beaucoup monter la facture à Michigan, honnêtement.
Mais bon, en tout cas, il paraît que
parce
Jim Harbaugh est intéressé
par...
Parce que
fonction publique française, je suis pas sûr qu'on s'aligne avec...
Tu crois que il est pas officiellement dans la fonction publique dans une fac?
Ouais ouais bah ouais, je crois qu'il y a un sacré il y a une petite différence, je crois.
Mais bon, en tout cas c'est peut-être encore une manœuvre pour essayer de faire gonfler son salaire, mais il paraît qu'il est aussi intéressé par les Raiders et il a embauché le même agent que Tom Brady qui est propriétaire minoritaire des Raiders, voilà. Okay. Mais après les agents, ils ont 50 mecs sous leur truc, donc ça c'est pas forcément une info. Mais bon voilà, en vrai, encore une fois, si t'as un Jim Harbaugh qui tape à la porte, tu vois.
Ouais ouais, non mais oui.
Je suis désolé pour Antonio Pierce hein, mais dans ce cas-là, voilà. Las Vegas donc a dominé le match 24-7 au début du dernier quart, le score c'est un peu rapproché à la fin, mais l'attaque des Broncos a été moins convaincante. C'était Jared Stidham sur le terrain, puisqu'évidemment on ne voulait pas casser Russell Wilson qui a des primes de blessure. Ça aussi, c'est quand même très c'est très Pierre de Coubertin tout ça. Tu vois, on est vraiment sur de l'esprit du sport. Russell Wilson, du coup, de retour de la saison prochaine, pas de retour,
non,
c'est la seule intrigue.
Pour moi, ça veut dire au revoir. Hein.
Parce que là, on fait des ouvertures sur la saison prochaine. Là, c'est vraiment l'intrigue numéro 1 de leur
intersaison. Oui, mais pour moi, le fait de pas vouloir le blesser. Donc qu'il ait son contrat garanti en grande partie l'an prochain et qu'il coûte je ne sais plus combien de dizaines de millions d'euros de dollars sur le salary cap, pour moi ça veut dire qu'ils ont quand même dans l'idée d'essayer de s'en passer l'an prochain. Comment, par qui, ça reste un peu un mystère. Mais écoute, après quand tu fais venir un coach, j'ai envie de dire, quand tu fais venir un coach comme Sean Payton, pour moi, tu vas jusqu'au bout de ton idée. Et donc, si au bout d'un an, l'équipe est mieux en attaque, machin, et qu'il te dit, moi, je pense qu'il faut partir là-dedans, j'ai envie de dire que tu continues avec, en fait.
Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il y a des autres équipes, voir où est-ce qu'il pourrait atterrir, mais... Atlanta ?
Oh, t'inquiète, il atterrira quelque part, hein, ça.
Atlanta, Washington ?
Ouais, ça va atterrir, c'est sûr.
Dans ces eaux-là ? Mais c'est Atlanta qui a beaucoup d'espace dans le salaire. Non, c'est les Colts qui ont énormément aussi. Mais les Colts, ils ont déjà un mec. On termine avec le bijou de cette semaine, Patriots-Jets. Patriots 3, Jets 17. Alors, match sous la neige, bon, petite excuse. Dominé par Breece Hall, qui était à peu près le seul joueur NFL sur le terrain ce dimanche sur cette rencontre.
En attaque, en attaque.
En attaque. Oui, en attaque, c'est vrai, je suis dur. 37 courses pour Breece Hall, 178 yards et un touchdown. Alors, s'il aimait jouer dans la neige, il a été servi. Il a tué le match sur un long touchdown dans le dernier quart, le seul touchdown du match, hein, d'ailleurs. Mmh. On a eu ce qu'on attendait des Jets, j'ai l'impression qu'on le dit semaine après semaine. Ils ont une bonne défense, ils n'ont pas de quarterback, ils ont Breece Hall. Voilà, je pense
oui,
qu'on
oui,
est,
oui,
là,
oui, un
est
Breece
bon.
Hall qui était en plus meilleur que ce qu'il ne faisait ces dernières semaines, parce qu'il avait, un peu oui. ralenti en fin de saison, faut quand même le dire. Ouais. Mais effectivement, c'était le plan de jeu une fois Aaron Rodgers blessé. On s'attendait quand même à voir plutôt Breece Hall avec 37 courses toute la saison, plus que ce qu'il n'a eu à un moment de la saison où on lui donnait très peu de ballons. Ouais.
D'ailleurs, petit aparté, mais je crois que j'ai vu une interview de. Comment il s'appelle leur coordinateur offensif qui était au Broncos l'an dernier
Hackett.
Voilà, Nathaniel Hackett qui disait les changements en attaque, ça commence par moi. Alors, je sais pas s'il voulait dire qu'il fallait le virer de lui-même.
Mais. Bah, ça me paraît une bonne idée.
Bah, quand on a vu le niveau de l'attaque des Broncos l'an dernier et celle des Jets cette année, oui, il y a un dénominateur commun, Nathaniel. Mais je voudrais pas être vexant. Bon, en tout cas, c'était un match en effet pas très très incroyable. Et puis alors en face, Bailey Zappi. Alors il y avait une très bonne défense des Jets. Sous la neige, c'est encore moins facile. Bailey Zappi, 12 sur 30 pour 88 yards et 2 interceptions. Alors il y a eu un festival assez incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé parce que j'étais sur ce match. Le moment où Zappi lance une interception, le mec des Jets fait fumble sur le retour. Du coup, sur le drive suivant, Zappi dit ne t'inquiète pas, j'en relance une. Tu dis ouais. Et donc il gagne 119 yards au total. Ouais. C'est une humiliation quoi.
C'est globalement une humiliation et de toute manière le plan de jeu est un peu étrange parce que le jeu au sol marche plutôt pas mal et on court pas tant que ça. Enfin, Ezekiel Elliott a que 13 courses alors qu'il a 4 yards par portée à peu près.
Ouais. Non mais ça a aucun sens. En effet, les Jets ont eu pour le coup, je rigolais de Nathaniel Hackett, mais en vrai, 42 courses pour 20 passes, Nathaniel Hackett, il s'est dit je joue dans la neige, donc
ouais,
je vais faire ça et j'ai Trevor Siemian.
Alors que les Pats
donc,
sont ouais.
Et ben les Pats ont 21 courses pour 30 passes. À quel moment tu vois
et
tu
30
tu
passes avec t'as vu ce corps de receveur encore une fois, c'est toujours pareil.
Oh
c'est...
là là.
Ouais, tu fais 30 passes dans ce contexte-là parce que t'as Justin Jefferson et Jordan Addison. Bah oui, t'as des super receveurs, tu tentes le coup. Enfin.
Bah oui.
Mais là, pour passer la balle à Jalen Reagor et Demario Douglas. Alors Demario Douglas, c'est un jeune joueur, donc j'ai rien contre lui. Il sera peut-être très bon par la suite. Mais bon, voilà. Encore une fois, on est une équipe des Patriots qui, en termes de jeu, de réflexion, laisse plus que dubitatif en fait.
Donc du coup, on change tout. C'est pareil, on ouvre vers la saison prochaine. Alors, les Jets d'abord. En gros, si on ouvre sur la saison prochaine des Jets, ils sont toujours au même point.
Oui,
on attend Aaron Rodgers.
Voilà.
Si on ouvre vers celle des Patriots, toi, tu... Alors, on se disait avant l'émission notamment, je te disais, j'ai du mal à m'imaginer que les Patriots sont Bill Belichick, mais si t'étais Robert Kraft, tu fais quoi? Tu vires Bill Belichick, tu repars à zéro?
Ouais. Oui, moi, c'est ce que je fais. Au bout d'un moment, je pense que effectivement, je pense que dans une franchise, c'est un peu sain, on va dire ça comme ça, d'amener des idées neuves, un nouveau regard sur les choses. Donc, la stratégie, la façon de penser de Bill Belichick, ça a très bien marché pendant 20 ans, mais c'est pas parce que ça a très bien marché pendant 20 ans que ça peut que marcher sur les 20 prochaines années. Je pense qu'il faut un peu de regard neuf, et donc je vire tout le monde et je repars à zéro. Et ça va être un peu dur, ça va être un peu compliqué le temps de trouver les bons éléments, mais c'est la vie de toute franchise NFL, de toute manière. Enfin, les Patriots, avant le milieu des années 90, où ils ont commencé à se réveiller avec Drew Bledsoe, avant ça, c'est une traversée du désert qui est tellement longue que bon, bah oui, s'il faut 3-4 ans de traversée du désert, bah il faut passer par là, bah on y passe, quoi. Enfin, on y va.
Et j'ai envie de te dire qu'il faudrait même prendre à bras le corps la manière dont la NFL change, c'est-à-dire que on a des Mike McDaniel, des Sean McVay, des machins, etc. Bill Belichick, là, on a vu ces 2-3 dernières années, c'était coincé dans un cycle où il essayait de répéter la même chose, de dire que ça allait finir par marcher en reprenant les mêmes coordinateurs, les mêmes machins, les mêmes types de quarterbacks, etc. Je pense que c'est vraiment le moment de dire « Ok, on accepte que tout a changé, on prend un quarterback en numéro 3 s'il y a un quarterback qu'on juge intéressant ». Quitte à ce que ce soit un quarterback totalement différent de ce qu'on avait, on arrête d'essayer de prendre des clones de Tom Brady, et on prend un coach qui innove, et on va peut-être changer de style de jeu, mais je commence à penser qu'en effet, il est peut-être temps de prendre tout ça à bras-le-corps. Maintenant, on verra encore une fois dans les heures et les jours à venir si c'est ce qui se passe. Mais ce sera un des enjeux. Ça va être une drôle d'intersaison du côté de New England, parce que ça va être tout ou rien, j'ai l'impression.
Oui, je pense aussi. Bah, tout ou rien, sauf si en fait, c'est la solution intermédiaire, c'est McDaniel ou Vrabel. Enfin, Là on est dans un peu en entre deux, on change mais sans trop changer et
c'est ce que j'allais te dire, c'est pour ça que je disais il faut y aller à fond et accepter que la NFL a changé, c'est que pour moi l'entre deux ce serait encore pire limite que de rester.
Plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord.
Je voulais juste qu'on se quitte avec pour finir les matchs avec une déclaration d'Ezekiel Elliott qui pour moi a eu la meilleure déclaration de toute la semaine. Je te vois sourire, je sais pas si t'as vu passer.
Oui, j'ai vu passer.
Ça va te toucher d'ailleurs, toi qui aimes beaucoup ce temps-là. Donc Ezekiel Elliott, sachez qu'en conférence de presse d'après-match, a dit quand j'étais, parce que donc c'était un match sous la neige, hein, je vous rappelle, contre les Jets, et il a dit quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu jouer un match dans la neige. Et maintenant que j'ai joué un match dans la neige, je me suis dit c'est vraiment nul.
Tu sais, moi je suis de l'école, je ne voudrais que des matchs en dôme couverts et avec absolument que le climat ne rentre absolument pas en jeu dans le résultat potentiel du match. Donc voilà, c'est ma façon de voir le truc.
Ezekiel Elliott est d'accord avec toi maintenant. Je sais pas où il en est niveau contrat, mais s'il est en fin de contrat, je suis pas sûr qu'il re-signe du coup. Et on va terminer comme ça cette émission du numéro 711 du podcast Touchdown IQ. Je vous donne les coulisses, c'est que Raphaël a été déconnecté subitement. Mais bon, on venait de finir, c'est pour ça que j'ai eu un petit temps d'arrêt. Je fais une grosse bise à Raphaël qui a été déconnecté subitement, mais on avait terminé. J'espère qu'il pourra m'envoyer son enregistrement, sa piste. C'est la fin du podcast 711. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à aller rejoindre. Cette semaine, on a rajouté Dax, Maxotech, Lafbert, Krolos et Morgan64, notamment parmi les tipeurs. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @TDActu, Facebook, @TDActu, Instagram, @TouchdownActu. En entier, les réseaux sociaux perso, Raphaël_TDA et @Alain Mattei pour moi-même. Pour tout le reste, c'est TDActu.com. Vous avez tous les liens sur le site pour le podcast, etc. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des étoiles sur le podcast. Dernier petit mot, on se retrouvera, alors évidemment, toute la semaine sur TDA, hein, la preview arrive. Il y a une nouvelle chronique qui arrive samedi, ne ratez pas ça, vous allez voir. C'est Jean-Michel Boujard qui va vous raconter des histoires de rookies en audio. Les papiers existent déjà sur le site, mais on va passer à des versions audio le samedi pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire les articles. Donc ça, ce sera aussi à voir. Il y aura toujours la draft aussi, évidemment. Et encore une fois, j'allais vous le dire, donc dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin, tout pile, je crois qu'on prendra l'antenne à 1h50 ou 1h55, on sera avec Raphaël sur W9 pour commenter le match entre les Kansas City Chiefs et les Miami Dolphins. Ce sera l'affiche sur W9, premier match sur la TNT. Raphaël est de retour. Raphaël est connecté à l'audio. Bon, j'ai improvisé, t'inquiète, j'ai expliqué ce qui se passait.
Alors, franchement, certaines fois, l'intelligence artificielle me fait peur et je me dis que la machine va battre l'humain. Et alors, d'autres fois, quand t'as un ordinateur qui dit qu'il te reste 30 minutes et 15% de batterie et qu'il s'éteint, j'ai plus de batterie, tu te dis bon, il y a peut-être de la marge encore.
Ça, c'est le classique. Raphaël, écoute, j'avais déjà donné les tipeurs, les Twitter perso, etc. etc. Et je disais qu'on se retrouve dans la nuit, donc de samedi à dimanche sur Sisplay. Ce sera après la petite histoire de France, avant Kaamelott, quelque chose comme ça. Et donc, n'hésitez pas. Alors, on a vu plein de messages. Évidemment, on est très contents sur les réseaux sociaux, etc. Vous nous avez envoyé plein de messages quand on l'a annoncé. N'hésitez pas à regarder en masse. Si vous voulez que ce soit programmé à des heures différentes, etc., il faut qu'on montre à W9 et au groupe M6 que ça fait de l'audience. C'est comme ça que ça marche, hein, et on va pas se voiler la face. Il faut que ça marche, il faut que ça fasse de l'audience, et peut-être pour gagner des cases au fur et à mesure. Donc on va faire ça, on va essayer de faire de notre mieux, hein, Raphaël.
Tout à fait.
Moi je m'en fais pas. On parlait avant l'émission là, on se disait on prépare des petites notes, etc. Là ça va être, je vous prépare des petits trucs un petit peu pop, vous allez voir. mais du coup voilà, on va faire ça, on va essayer de faire un truc sympa pour tout le monde et puis que ça fasse un peu d'audience. Et puis voilà, on est là aussi pour ça. Et puis regardez en masse sur M6, on sera très content sur W9, pardon, on sera très content de vous avoir. Et M6, ce sera le Super Bowl, bien sûr. Merci encore Raphaël du coup.
Merci Alain.
Et on se dit à très bientôt sur les antennes de TDA. Demain, ce sera Raoul et Victor, si je ne dis pas de bêtises, qui vous présenteront le premier tour des playoffs, parce que c'est quand même le premier tour des playoffs, ça c'est trop cool. À très bientôt sur les antennes de TDA. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.